Et vous, jusqu'où irez-vous en électrique? Avec l'Opel Corsa i, profitez de 10 000 km d'électricité offerte et roulez sans contrainte avec une autonomie exceptionnelle et une recharge ultra rapide en 30 minutes. Pendant les Opel Electric Days, faites l'expérience de l'excellence allemande à partir de 169 € par mois.
Exemple Corsa i édition à partir de 169 € par mois. Apport de 1844 € incluant la déduction de 10 000 km d'électricité. LLD 48 mois valable jusqu'au 31 janvier. Conditions sur opel.fr. Electric Days, jours électriques. Portes ouvertes ce week-end.
Vous êtes sur RTL.
Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi.
Le retour du groupe Texas. Les Écossais dévoilent le premier single de leur prochain album. Leur chanteuse, Charlene Spiteri, s'est confiée à Stephen Bellery, la fille de Romy Schneider. Sarah Biasini publie La beauté du ciel. C'est un ouvrage dans lequel elle se souvient de sa mère et raconte sa propre maternité. Rencontre au micro de Stéphane Boutsock. Nous vous offrirons le livre de Sarah Biasini, notre coup de cœur du jour. 6 mois après la disparition de Zizi Jeanmaire, la garde-robe de la reine du music hall est mise en vente. Monique Younes a vu en avant-première les plus belles pièces exposées chez Christie's. Et nous n'oublierons pas de jeter un œil sur les programmes télévisés du jour avec Isabelle Morinier-Bosse.
Laissez-vous tenter dans RTL Matin.
Près de 4 ans après Jump on Board, le groupe Texas prépare son retour. Le premier extrait de leur prochain album vient d'être dévoilé. Bonjour Stephen Bellery.
Bonjour à tous.
Vous avez joint la chanteuse Charlene Spiteri pour RTL.
Oui, confinée dans sa maison du Pays de Galles, l'artiste de 53 ans n'a pas pu partir sur les routes à l'automne dernier alors qu'elle devait célébrer les 30 ans de Southside, le premier album de Texas. Le groupe en a profité pour peaufiner son 10e disque, un enregistrement baptisé High, à paraître au printemps, probablement le 30 avril, mais tout peut encore changer. High, c'est aussi le nom du premier extrait. Pour RTL, Charlene Spiteri introduit ce morceau optimiste et langoureux.
Pour moi, c'est une chanson sur l'importance d'être heureux de vivre, de considérer l'amour et les relations humaines. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, on doit voir la vie du bon côté. On est actuellement en confinement strict au Royaume-Uni pour la 3e fois et cette situation nous fait réaliser tout un tas de manques. À commencer par le manque de nos familles, de nos amis ou de situations simples comme être attablé avec des gens à profiter d'un bon repas, de rire, de voir des visages sereins. Et le fait que je vieillisse aussi me donne l'envie de profiter de chaque seconde, d'être avec ceux que j'aime. Je n'ai aucune envie de me reposer, je ne me suis jamais reposée de ma vie. Mais après 50 ans, tu as juste envie de ralentir à peu près tout, de profiter, d'observer et de chérir les moments doux, comme faire des chansons ou un album. Simplement de croquer la vie un peu plus.
Tell me what it's all about. You've got the answers, baby, there's no doubt. You got high, you're still high. Spinning out of orbit in the pale moonlight. Your eyes are burning like a neon light. You're so high, you're still high. I'm gonna take my
le tout nouveau morceau de Texas, chanson pleine de malice, qui joue avec les mots. High veut dire salut en anglais, mais c'est aussi un homonyme pour en haut ou être stone.
Texas qui semble de plus en plus soudé avec le temps.
Oui, Ali et Johnny, le guitariste et le bassiste, sont toujours là et faire de la musique ensemble est de plus en plus facile pour Texas. Jump on Board, entré directement numéro 1 des ventes en France en 2017, avait été créé dans une réelle insouciance. Cela a donné des ailes à la bande qui a innové pour son prochain disque. Texas a enregistré des chansons à distance. Confidence de Charlene Spiteri.
C'était un album assez facile à faire. On l'a terminé pendant le premier confinement. Puis, étant tous enfermés, on a commencé à écrire de nouvelles chansons qu'on a fini par ajouter à l'album. Et c'était assez cocasse. J'étais chez moi au Pays de Galles, Johnny était en Écosse, les autres étaient en Suède. C'était une drôle d'expérience de créer ainsi, alors que d'habitude, nous sommes tous dans la même pièce. On était tous dans des pays ou des endroits différents.
In different
Ça a donné au morceau un je ne sais quoi supplémentaire. Et c'était vraiment drôle car c'était différent. Un vrai challenge au fond. Tu te retrouves à jongler avec ton ordinateur, ton casque, ton téléphone, l'écriture. C'était donc très atypique.
Que jamais, on veut faire de la musique populaire, m'a confié Charline Spiteri High. Leur nouveau single est en écoute. Sachez qu'une version en duo avec le Wu-Tang Clan existe. C'est un collectif de rappeurs qui s'était déjà invité sur leur tube Say What You Want il y a 20 ans. Album High, le 30 avril, tournée française dès le 1er octobre.
Merci beaucoup Steven Bellery. Dans un instant, Sarah Biasini et le livre La beauté du ciel avec Stéphane Woodchuck.
RTL. Laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 9h08, c'est d'un livre très particulier dont nous allons vous parler ce matin. Il raconte l'histoire d'une femme devenue maman et qui, au travers de sa maternité, parle aussi du deuil de sa propre mère. Stéphane Woodchuck, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce livre s'appelle en fait La beauté du ciel et il est signé Sarah Biasini.
Alors d'abord, une précision importante pour celles et ceux qui attendent des anecdotes croustillantes, des ragots, du crapoteux. Passez votre chemin parce qu'en évoquant Romy Schneider, sa mère, Sarah Biasini explore surtout la voie de la transmission, là d'où elle vient, ce qu'elle veut laisser à sa fille, Anna, qui aura bientôt 3 ans. La beauté du ciel est un livre profond, émouvant, qui parlera aux parents et aux enfants, 250 pages vibrantes, qui sont nées d'un double événement, tragique et heureux. Nous sommes en mai 2017, Sarah Biasini apprend par un coup de fil de la gendarmerie que la tombe de sa mère a été profanée. Elle s'effondre, évidemment, mais fait face. Et 3 semaines plus tard, alors qu'elle essaye avec son compagnon d'avoir un enfant depuis longtemps, eh bien on lui annonce qu'elle est enfin enceinte. C'est à ce moment que l'idée d'écrire lui vient d'une manière fulgurante.
J'ai trouvé ça mais tellement romanesque. De toute façon, je trouve que c'est important de mettre un peu de poésie dans la vie. Donc effectivement, là, j'ai connu cet événement, voilà, cette profanation, et 3 semaines plus tard, vraiment, on montre en main une procréation. Bon, si on s'intéresse un petit peu à la psychanalyse comme moi, là, on se dit, tiens, il y a quand même un truc qui s'est passé. Mais je l'ai senti, je ne sais pas comment vous dire, physiquement, intérieurement, dans ma tête, j'ai senti que c'était... D'abord, tout de suite, quand je suis rentrée du cimetière après la profanation, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cet événement? Comment je peux le transformer? Qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que ça... Parfois, on a besoin de donner du sens aux choses. Aussi, c'est aussi bête que ça. Et ben voilà, là, il y a eu du sens.
Ensuite, les mots vont affluer, les souvenirs remonter à la surface, l'absence aussi, puisque rappelons que Sarah Biasini avait à peine 5 ans quand sa mère est morte brutalement. Vient le moment de la naissance d'Anna, sa fille, et là, tout se met en place.
Je me suis rendu compte, en ayant mon enfant sous les yeux, que j'étais renvoyée automatiquement à ma propre enfance. Et donc, mon amour vers mon enfant était anxieux, angoissé, apeuré, parce que j'avais connu la mort très tôt. Et je trouvais que la description de cet amour maternel teinté par le passé était un vrai sujet en soi. Le fait d'aller vers ma fille, en même temps vers ma mère, de me poser les questions que tous les parents se posent, c'est-à-dire quel genre de parent on veut être. Et automatiquement, on se dit, mais alors quel genre d'enfant j'ai été? Quel genre de parent j'ai eu? Il y a toute une foule de questions qui s'ouvrent.
Alors parmi ces questions, Stéphane, comment parler de cette grand-mère, trop tôt disparue, à cette petite fille qui en ignore tout, y compris la renommée de star du cinéma?
Il y a d'ailleurs quelque chose de fort et troublant dans le livre de Sarah Biasini. Elle nomme Romy Schneider une seule fois en citant les mots de Michel Piccoli.
Pour moi, c'était impossible de dire son nom. Je n'aime pas dire son nom. Pour moi, c'est ma mère. Alors, je ne veux pas être larmoyante du tout, mais... C'est ma mère, c'est déjà énorme, c'est suffisant. Donc mon éditeur m'a poussée à essayer d'expliquer pourquoi je n'allais pas écrire son nom. Bon, après, il faut lire et vous comprendrez.
On croise dans La Beauté du Ciel les figures de Piccoli, donc, mais aussi de Claude Sautet, de Philippe Noiret ou d'Alain Delon, que Sarah Biasini croise ou croisera avec pudeur en grandissant. Mais je reviens en effet à la manière dont elle compte évoquer Romy Schneider quand sa fille lui posera forcément des questions.
Je ne sais pas encore. Je vais voir comment ça va se passer. J'espère ne pas être émue en lui racontant tout ça ou en lui montrant des photos et tout, parce que moi j'ai eu un tel exemple. Ma famille s'est montrée tellement digne en face de moi pour me transmettre leurs souvenirs. Je les ai jamais vus brancher, jamais pleurer, toujours me raconter dans le sourire. C'est moi, en les écoutant, c'est moi qui pleurais parce que j'avais de la peine pour eux, parce que leurs souvenirs étaient tellement vivaces. Je me disais, mais... Et j'étais admirative de leur courage à me raconter leurs souvenirs. Mais vraiment, c'est encore aujourd'hui, ça me bluffe complètement. Je ne sais pas si moi j'aurais ce même courage à raconter à ma fille. Voilà, les gens qui ont existé, qui ne sont plus là, c'est il faut un vocabulaire ou pas. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais bon, ça se fera. Et après, je fais confiance hein, aux choses, ça se fera naturellement, on va dire.
Il y a d'ailleurs un passage tendre et drôle dans le bouquin où la petite Anna apprend en regardant Sissi à la télé que c'est sa mamie qui joue dans le film. Elle ne comprend pas bien parce que jusqu'ici, sa mamie, bah, c'est la mère de son père, Daniel Biasini. Alors pour Sarah, l'aventure de l'écriture, comme une autre grossesse, arrive à son terme. Je lui ai demandé pour terminer comment elle sortait de cette expérience.
Ce que je trouve bien, c'est d'affronter les choses, de se confronter à des lieux, comme les cimetières, comme les hôpitaux, à des événements. Il faut y réfléchir, il faut se poser des questions, il faut... Et puis, d'aller au plus près de soi, c'est comme ça qu'on va au plus large. Bon, je suis comédienne aussi, donc j'ai pas de problème avec de rendre les choses publiques ou jouer des émotions et partager des émotions et essayer de les décrire à la place d'autres gens, ça fait partie de ce que j'aime faire. Et tout l'enjeu, et c'est ça qui m'a aussi passionnée, c'était de garder la pudeur, de pas avoir l'impression de raconter toute ma vie, parce qu'en fait je dis pas grand chose et je pose beaucoup de questions sans forcément y répondre, mais je trouve que c'est des sujets larges. Tout ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe entre la naissance et la mort, et qu'est-ce qu'on fait au milieu, et voilà.
Voilà. La Beauté du Ciel de Sarah Biasini vient de paraître aux éditions Stock.
Et nous vous l'offrons ce matin à condition de répondre à la question que va vous poser Stéphane.
Comment s'appelle la fille de Sarah dont la venue au monde est au cœur de ce livre? Est-ce Anna ou Clara?
Vos réponses au 32-10. Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Il est 9h15. Bonjour Monique Younès.
Bonjour.
Nous allons parler à présent de vente aux enchères. Celle de la garde-robe de Zizi Jeanmaire par Yves Saint-Laurent, dispersée chez Christie's. 6 mois après son décès, les estimations vont de 200 à 6000 euros.
Oui, c'est émouvant. La garde-robe d'une célébrité, on se souvient, tiens, cette tenue, elle l'a portée quand elle a rencontré la reine d'Angleterre, celle-ci a fait la une de Paris Match, cette veste smoking, elle l'a portée juste sur des collants noirs. On a tous en tête quantité d'images de Zizi Jeanmaire, icône de la danse, chanteuse, actrice, c'était une toute petite femme, tout en jambes, Zizi. Elle taillait du 34, chaussée du 35-5, ses tenues de ville tranchaient complètement avec l'exubérance de ses tenues de scène, elles sont d'une élégance folle, c'est le nec plus ultra d'Yves Saint-Laurent, haute couture et prêt à porter, m'a précisé Camille de Foresta, commissaire priseur chez Christie's.
Le style de Zizi Jeanmaire à la ville, c'est vraiment garçonne. Les smokings, les blouses, les manteaux de fourrure, les sahariennes par exemple, et féminine au plus haut point grâce à ses jambes extraordinaires qui sont mises en valeur par les tenues Saint-Laurent. Les jupes sont courtes, Zizi Jeanmaire était petite, 1m55, les robes portefeuilles sont fendues, très très glamour. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle reporte les vêtements, c'est-à-dire que vous avez des vêtements des années 70 qu'on peut ensuite lui revoir porter dans les années 90. Elle prenait un grand soin de ses vêtements, les vêtements sont tous dans un état de conservation remarquable. Il faut quand même imaginer que Madame Jeanmaire est morte à 96 ans. On était en 2020 lors de sa mort. Elle n'avait plus l'occasion de les porter. Elle sortait très très peu, hein, vous savez, à la fin.
Alors, Zizi Jeanmaire connaissait Yves Saint-Laurent depuis quand?
Depuis 1961, grâce à son mari, le chorégraphe Roland Petit. Yves Saint-Laurent venait d'ouvrir sa maison de couture, il y a juste 50 ans, quand Roland Petit lui demande d'imaginer les costumes de son spectacle La Revue à l'Alhambra. C'est dans ce spectacle que Zizi fait son célébrissime numéro en chantant...
Plume des oiseaux, des animaux.
Zizi est en top noir sur collant noir et des plumes en éventail rose. La tenue est signée Yves Saint-Laurent. C'est la naissance d'une amitié qui durera 30 ans. C'est aussi la naissance d'un look, m'a dit Camille de Foresta.
Zizi Jeanmaire et Yves Saint-Laurent ont été très amis et très admiratifs l'un l'autre de leur travail. On a une correspondance entre les deux et on a des croquis de Saint-Laurent qui s'amusent avec les initiales de Zizi Jeanmaire. Donc il fait des Z, des J qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, qui s'envolent. Et cette veste, ça c'est vraiment le symbole de cette collaboration. C'est une veste très tôt aussi, début des années 70, qui est en jersey, une matière que M. Saint-Laurent aimait beaucoup, jersey de la maison Racine, qui bouge pas, qui donne un côté très intemporel encore une fois. Et sur la poche, le monogramme ZZ brodé en fil métallique doré, deux Z qui s'entrecroisent.
Alors, ce sont des costumes, uniquement des costumes de ville ou il y a aussi des costumes de scène?
Que des costumes de ville. Alors, vous pouvez par exemple enchérir pour un chemisier en soie fuchsia, col Lavalière et poignard serré, Yves Saint Laurent, rive gauche années 80, d'une classe dingue, et espérer l'emporter pour 200 euros, selon l'estimation. Mais une vente qui célèbre autant l'amitié entre un couturier et une grande artiste contient toutes les recettes du succès et la certitude que les prix vont s'envoler. Écoutez Camille de Foresta.
Oui, ça monte inévitablement, je le souhaite, mais je sais d'expérience que dans les ventes aux enchères, il y a toujours une surprise. Et puis ça monte, je veux dire, il y a quand même des justes prix. Vous savez, ce qui est très intéressant avec ces ventes-là, c'est le nombre de personnes différentes que ça invite. Vous avez des collectionneurs qui vont vraiment garder les objets dans des garde-meubles, les prêter pour des expositions. Les musées sont acheteurs, bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui veulent porter. Donc moi, j'aimerais beaucoup que cette vente réunisse non seulement les collectionneurs, mais aussi des femmes qui veulent s'habiller. J'espère que, effectivement, les enchères vont s'envoler, mais tout ça est très relatif. Vous avez l'importance historique du vêtement qui ne concerne pas toutes les pièces de cette vente.
Alors Monique, dites-nous tout. Quelle est d'après vous la pièce la plus historique?
Probablement cette robe de cocktail entièrement brodée de perles et de paillettes de la collection africaine, imaginée en 1967 par Yves Saint-Laurent pour la haute couture printemps-été. La robe est estimée 6000 euros, mais elle a une histoire qui n'a pas de prix et qui risque de flamber.
Cette robe, je revois une photo de Madame Jeanmaire rencontrant la reine d'Angleterre à Londres à l'issue d'un ballet dans lequel Nureyev dansait, un ballet de Roland Petit bien sûr, et c'est la même robe, mais pas vraiment la même robe. Alors, je connais un peu les modèles, alors je lui dis, mais attendez, excusez-moi, mais sur la photo, ce n'est pas cette robe-là. Et elle me dit, oui, Roland Petit a trouvé que la robe que je portais était trop dénudée. Donc, comme nous sommes rentrés à Paris, je suis allée à la maison de couture et j'ai échangé les robes.
Donc, quand Zizi rencontre la reine d'Angleterre à l'issue, c'était la première de Paradis perdu, elle portait une robe longue, mais décolletée, oui. Et elle l'a échangée à son retour pour faire plaisir à son mari, pour une robe de la même collection, courte, mais couvrante.
Bon, elle l'aimait beaucoup, son Roland Petit.
Vous voyez combien de l'eau? 142. Des smokings, des vestes croisées, des robes, des pantalons sahariennes, trench, chemisier, accessoires et pour les fétichistes, des souliers.
Ah bah
alors
oui.
Là,
on en
le
veut.
Le comble de l'émotion. Les souliers de Zizi Jeanmaire, il y en a beaucoup. Il y en a certains avec lesquels elle a dansé sur scène, d'autres qu'elle a portés dans les galas à la ville. Ils sont vraiment très bien conservés. Il faut chausser entre 35,5 et 36,5. Vous pouvez en chérir en ligne jusqu'au 26 janvier, mais dès le 21 janvier, Christie's expose les vêtements et les accessoires afin que vous puissiez les voir. C'est avenue Matignon à Paris. Rien que pour le plaisir des yeux, allez jeter un œil dans la limite des masques disponibles.
Bien sûr. Si vous êtes tenté, il ne faut pas hésiter parce que ces ventes, on croit toujours que ça va atteindre des sommes absolument invraisemblables. Et il y a des choses plus modestes qu'on peut acquérir.
Vrai.
Merci infiniment, Monique Younès. On a passé un excellent moment avec ce truc en plume. Dans quelques instants, la télévision, Isabelle Morelli-Bosque.
Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 9h23, la télévision, Isabelle Morelli-Bosque. Alors, vous n'aviez pas l'intention de regarder Maison à vendre sur M6, et puis vous êtes amusée par le cas du traité aujourd'hui.
Alors, c'est exactement ça. Je m'étais un peu détournée de cette émission. Ben, on connaît le principe par cœur, hein, aider un particulier à vendre sa maison, ça existe depuis 14 ans. Mais ce sont justement les cas très particuliers qui font la différence. Et celui du jour l'est vraiment, puisque la propriété qu'on va voir ce soir a un côté brocante, celle d'une retraitée d'origine espagnole que l'on retrouve avec sa fille Victoria. Pour Stéphane Plaza, la sidération commence dès le jardin.
Ah, c'est pas possible.
C'est ça que j'ai à vendre?
Mon Dieu! Oh non!
Vanessa? Pépite, hein? Je sais pas comment on peut appeler ça.
Capharnaüm.
Oui, Capharnaüm ou décharge. C'est beau l'Espagne, hein. Ce que je trouve moins beau, c'est le jardin. J'ai vraiment pensé qu'on me faisait une farce. Il y a un problème.
Mon mari était entrepreneur. Il a amassé tout ça pendant des années et des années. C'est séparé pour lui, c'est dur.
Vous avez essayé de vendre depuis combien de temps cette maison?
2 ans.
Combien de visites?
Environ 10.
Pas d'offres?
Non.
Ça, pour moi, c'est un souci. Quel prix?
375 000 euros.
Je serai transparent le plus possible, même si je dois peut-être un peu te bousculer sur le prix.
Oui. Pas trop, hein.
Pas trop, Pépita. Pépita, Mikorata.
Voilà, c'est vraiment drôle. Reste et instructif. Hein. Reste que la concurrence est rude, et pas seulement celle de Lupin sur Netflix ou Nip Tuck à revoir sur Salto. La 3 propose ainsi un Des Racines et des Ailes alsacien savoureux. Ah, le gros plan sur Colmar. Et France 2, Disparition inquiétante, un polar réussi, mais pas que. Mm-hmm. On y voit d'abord le pot de départ d'Esther Levanski, commissaire ayant démissionné, pour devenir juge. Sauf que la nuit de son départ disparaît sa protégée, qui laisse seul son nourrisson. Conséquence, notre commissaire reste pour enquêter et réinvestit le commissariat aux grandes dames de la proc, qu'elle déteste et qui la surprend en train d'asticoter la nouvelle commissaire.
Ouh là là.
Non mais sérieusement, il y a quoi de plus urgent à faire ce matin que de retrouver cette fille?
Vous voulez que je vous fasse la liste de ce qu'il y a de plus urgent? Non, parce qu'il y a de tout. Hein. Il y a du petit vieux qui se fait braquer chez lui à main armée, la mère de famille qui se fait menacer de mort par son ex-mari. Alors, pardonnez-moi, mais enfin, la gamine qui prend la fuite parce que son bébé pleure un petit peu trop. Non, elle n'est pas prioritaire.
Ah ouais, quand même. Hein. Ça rentre vraiment pas dans votre monde, une gamine de 17 ans qui veut avoir un enfant. Alors, je vous rassure, dans le mien non plus, ça rentre pas. Par contre, là, je les connaissais. Ce bébé était désiré. Il bornait son portable ou pas?
Plus rien après votre message.
Ah ouais, parlons-en du message. J'ai pas les épaules pour devenir maman à mon âge. Prenez soin de Zoé. Vous connaissez une fille de cet âge-là qui parle comme ça, vous?
Très bien. Si vous avez des informations, merci de nous les communiquer. Sinon, j'ai envie de vous dire bonne route pour Bordeaux. Voilà.
Voilà. La proc, c'est Charlotte de Turckheim, qui est toujours épatante. Et la future juge, qui a deux jumeaux adoptés et un mari pédiatre, c'est Alix Poisson, formidable comédienne qui, là, va devoir nager à contre-courant. En même temps, il y a de la logique quand on s'appelle Poisson.
Alors, si je me souviens bien, mercredi dernier, la 2 a fait jeu égal en audience avec la nouvelle série médicale de TF1.
C'est exactement ça, vous avez bonne mémoire.
Bah oui.
Je rappelle que la série de la 1 est italienne, ce qui en fait déjà l'originalité, et surtout qu'elle est tirée d'une histoire vraie, l'amnésie de 12 ans d'un chef de service sûr de lui et surdoué, qui a donc à oublier son passé récent après avoir reçu en pleine tête une balle destinée à un autre chirurgien véreux. C'est passionné, passionnant. L'acteur est absolument formidable, Luca Argentero. Et ce soir, sa patronne, son ex, explique sa nouvelle affectation.
Andrea réintègre le service à partir d'aujourd'hui. Vous devez vous habituer au fait qu'il ne sera plus votre chef de service. Ce ne sera pas non plus un médecin comme les autres, mais un simple auxiliaire.
Je vois.
Il sera utile à terme. Je ne veux pas qu'il parle aux patients ou à leurs proches.
Ça ne devrait pas être un problème. Il ne le faisait jamais avant.
Je ne veux pas que les patients soient au courant de son état de santé. Un avocat pourrait utiliser le fait qu'il a réintégré le service contre l'hôpital.
Mais alors, c'est une bonne idée qu'il revienne ?
On termine par Gulli qui s'attaque au cliché sexiste.
Oui, alors le rose pour un garçon, c'est pas bien. Le foot pour une fille, c'est moche, etc., etc. La chaîne tord le cou à ses clichés dans une série composée de dessins animés d'une minute trente, traitant chaque fois un cas différent. On en reparlera dans les jours qui viennent, puisque c'est une petite quotidienne. Donc voilà, on remet ça à demain.
Moi, j'adorais Gulli quand ma fille était toute petite. Regardez ça, il y avait des.
Et moi, j'ai gardé une âme d'enfant.
Très, très lent pour pas faire peur aux enfants. Mais alors, très, très lent. Donc les parents s'endorment. Allez, à tout de suite, on va retrouver Julien Courbet.
Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi.
Heureusement que vous êtes là, Monique. Demain, l'invité de cette émission sera Yasmina Reza pour la sortie de son dernier roman intitulé Serge chez Flammarion. Nous serons bien entendu avec Bernard Lehu. Voilà. Merci à toutes.